VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Soudan du Sud, une délégation militaire des ex-rebelles de l'ancien vice-président Riek Machar doit arriver aujourd'hui à Djouba, la capitale, dans le cadre de la mise en application de l'accord de paix conclu en août. Le gouvernement du président Salva Kiir se dit prêt à l'accueillir. Son arrivée confirme les progrès dans l'application de l'accord de paix, déclare le ministre de l'Information, Michael Makuei. Crise burundaise, la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine d'autoriser l'envoi d'une mission de 5000 hommes au Burundi pour enrayer les violences dans le pays a été rejetée dimanche par le gouvernement du président Pierre Nkurunziza. Si elle est déployée sans l'aval de Bujumbura, cette force sera considérée comme une force d'invasion et d'occupation, a dit un haut responsable burundais, Jean-Claude Nzaretnerwa. Dans la classe politique, les avis sont partagés. Paul Nkuzimana dirige le PTD, le Parti des travailleurs et de la démocratie. Il souhaite plutôt un dialogue inter-burundais et met en doute la capacité d'une force régionale à ramener la paix au Burundi.
Pourquoi des troupes régionales alors que nous avons des troupes à l'étranger? Il s'agit de piétiner la souveraineté de ces pays. C'est-à-dire que les puissances étrangères ont décidé de piétiner la souveraineté du peuple somalien. Les puissances étrangères ont décidé de piétiner la souveraineté du peuple centrafricain. En RDC, vous avez en fait les troupes de l'ONU, la MINUSCO, qui compte plus de 20 000. Cette force de 5 000, qu'est-ce qu'elle va faire pour le maintien de la paix? Alors que nous avons plus de 10 000 à l'étranger.
Paul Nkuzimana joint Bujumbura. Dans l'opposition, la réaction à l'envoi éventuel d'une force africaine au Burundi est positive. Odifax Ndabitorere est un ancien candidat à la présidence.
Ce ne serait pas seulement une bonne chose, mais ce serait salutaire pour le Burundi à l'heure actuelle. Quand on regarde le déroulement des événements, au Burundi, il y a eu plusieurs morts depuis 2005, donc des personnes qui ont été jetées dans plusieurs rivières. Il y a eu des personnes qui ont été tuées en 2010 à Gatumba et plusieurs membres du parti FNL qui ont été tués après les élections de 2010, mais aussi les assassinats de trois sœurs qui ont été décapitées. Ça veut dire qu'au Burundi, les massacres ont continué à grand d'échelle, bien sûr, et au moment où je vous parle, les massacres ont pris un autre élan. Et cela démontre que le gouvernement burundais lui-même n'est pas en mesure de pouvoir arrêter ce qui est en train de se passer.
Odifax Ndabitorere, joué à Amsterdam par Chérubin Dorsil. En RCA, plus qu'une semaine pour l'élection présidentielle qui aura lieu le 27 décembre précisément. Un scrutin couplé aux législatives est crucial pour la sortie de crise en Centrafrique. Sur place, les candidats s'activent en vue de convaincre les électeurs. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Ce lundi, la campagne électorale entre dans sa deuxième semaine et dernière ligne droite avant le premier tour du 27 décembre. Les candidats qui étaient jusque-là peu visibles sur la scène multiplient depuis ce week-end des meetings et des caravanes à travers la ville de Bangui. Les quartiers généraux ou comités de soutien se rivalisent en instruments musicaux, créant un véritable vacarme, surtout la nuit dans les quartiers. Parmi les 30 candidats à la présidentielle, 4 seulement ont le courage pour battre campagne dans certaines villes de l'intérieur du pays, contrôlés pour la plupart par des groupes armés. Difficile pour l'instant de faire un pronostic, car certains électeurs que nous avons interrogés ne savent pas encore qui voter pour mettre à la tête du pays. Alors que la campagne électorale est à sa deuxième semaine, 9 candidats aux législatives recalés par l'Autorité nationale des élections ont été autorisés ce dimanche par le tribunal administratif à revenir dans la course. Les différents candidats ont jusqu'au 25 décembre à minuit pour tenter de convaincre les quelques 2 millions d'électeurs centrafricains attendu aux urnes le dimanche prochain. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Mali, le Tchadien Mohamed Saleh Anadif aux commandes de la MINUSMA, la mission des Nations Unies sur place. Il prendra fonction le 14 janvier 2016. L'ancien chef de la diplomatie tchadienne devra insuffler du sang neuf à la MINUSMA. Objet de critique, il mesure l'ampleur du travail qui l'attend. On écoute le prochain patron de la MINUSMA.
On ne peut pas faire la paix au Mali sans les Maliens. Cet accord a été signé par le Malien. Donc je vais vraiment m'investir pour que son application puisse voir le jour. Maintenant, parallèlement à ces acteurs qui ont signé l'accord d'Alger, il y a ce qu'on appelle les groupes armés terroristes, qui, eux, n'entrent pas dans ce chemin-là. C'est les gens qui ont opté pour une guerre asymétrique, dont souvent on ne connaît même pas l'objectif. C'est des gens qui sont tout simplement imbus par la notion de tuer, la notion de terroriser, la notion de détruire, mais l'AMINUSMA fera tout pour combattre ces groupes armés et terroristes afin que des actes comme celui de l'hôtel Radisson Blu ne puissent pas se produire.
Mahamat Saleh Anadif, le prochain patron de la MINUSMA au Mali. Toujours concernant le Mali, 6 mois après la signature de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation nationale dans le pays, rien ne bouge. Groupe armé et gouvernement malien ne sont toujours pas parvenus à mettre en place le comité de suivi de l'accord. Des détails sur la situation à Bamako avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Signé le 15 mai puis parachevé le 20 juin 2015 à Bamako, l'accord pour la paix et la réconciliation n'est pas encore appliqué sur le terrain. Faute de consensus dans la mise en place de son comité de suivi, la COMPIS 15 souhaite une inclusivité dans l'application de l'accord. Ousmane Ag Mohamedoun, membre de la COMPIS 15.
L'article 58 de l'accord, l'article 67 de l'accord sont inviolables. Et au nom de ces articles, nous exigeons notre place qui est de droit dans le comité de suivi, dans les sous-comités et de façon confortable. Parce que c'est là que se discute la sécurité et la défense de notre pays. C'est là que se discutent les réformes qui vont voir le jour dans notre pays. On ne peut pas être en marge. Nous avons suffisamment de ressources pour combattre cela.
Sur le terrain, la situation se détériore de jour en jour avec des attaques et des attentats dont les premières victimes sont les forces armées du Mali et les soldats de l'AMINUSMA. La dernière en date s'est passée dans la nuit du 17 au 18 à Tombouctou. Le bilan est de 3 morts, dont un animateur de radio et deux de ses amis qui étaient assis devant la radio Tanit FM. Les organisations professionnelles de la presse ont condamné cet assassinat dans une déclaration lue par Daouda Mariko, vice-président de la Maison de la Presse du Mali.
La Maison de la Presse condamne avec les mots les plus forts et très vigoureusement cet assassinat. Elle souhaite que son auteur soit arrêté, poursuivi et puni. Cette nouvelle situation augmente les risques pour la sécurité des journalistes à leur poste de travail.
La situation ni paix ni guerre est constatée par l'AMINUSMA avec impuissance. Radia Achouri, porte-parole de la mission onusienne au Mali.
L'environnement sécuritaire ne s'améliore pas. Dans certaines zones, ça ne fait que s'aggraver. Il faut absolument que l'on puisse avancer sur la mise en œuvre de l'accord de paix. La dernière attaque sur le Radisson a alerté tout le monde sur la nécessité d'être plus vigilant.
Les acteurs du processus d'Alger étaient en conclave à Bamako les 16 et 17 décembre dernier. Faute de consensus, ils n'ont pas pu mettre en place le comité de suivi de l'accord. Le blocage se situe au niveau de la plateforme, selon Ousmane Ag Mohamedou de la COMPIS 15.
Aux dernières nouvelles, nous avons compris que la CEMA n'est même plus opposée à une ouverture du caractère inclusif. Et maintenant, Maître Harouna Touré, au nom de son statut de porte-parole, aujourd'hui, se situe en défenseur de l'exclusion, en s'opposant, en rejetant des niettes catégoriques tout ce que le gouvernement propose pour l'unité de ce pays, considérant pour lui que le gouvernement, c'est une partie comme lui, alors que le gouvernement représente tous les pays. Il faut s'allier la médiation algérienne, parce que le président du CSA, notamment le chef de l'Algérie a fait une proposition qui allait trouver notre accord. Si Maître Harouna Touré ne s'est pas érigé en avocat de l'exclusion.
Pour le moment, les responsables de la CMA et la plateforme qui marchent main dans la main n'ont pas voulu faire de commentaires. La médiation internationale de son côté reste optimiste car elle pense qu'après les fêtes de fin d'année, les différentes parties vont revenir à des meilleurs sentiments. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, l'armée affirme avoir tué 12 militants du groupe islamiste Boko Haram dans 2 accrochages séparés dans le nord-est du pays, selon un communiqué diffusé dimanche soir. Le président nigérien Muhammadu Buhari avait donné aux forces de sécurité jusqu'à fin décembre pour en finir avec l'insurrection de Boko Haram qui a fait 17 000 morts et 2 600 000 réfugiés depuis 2009. L'émissaire de l'ONU pour la Libye a indiqué hier que des contacts avaient été établis à Tripoli avec des responsables de la sécurité, notamment des milices, en vue d'installer le gouvernement d'union nationale dans la capitale. Martin Kobler, qui a pris ses fonctions à la tête de la mission d'appui de l'ONU en Libye, Manul, en novembre dernier, a indiqué que le général italien Paolo Serra était en charge des négociations avec les responsables de la sécurité à Tripoli. Et pour terminer, Miss Philippines a été élue Miss Univers 2015 dimanche à Las Vegas, aux États-Unis. La soirée s'est terminée dans la confusion en raison d'une bourde de l'animateur. C'est d'abord Miss Colombie qui l'avait désignée comme Miss Univers 2015, mais la couronne lui a été retirée en l'espace de 5 minutes et c'est Miss Philippines qui est maintenant Miss Univers. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.